Dilexit nos inusa aimé, c'est le titre de la lettre encyclique du pape François sur l'amour humain et divin du cœur de Jésus, publiée le 24 octobre 2024. C'est sur cette encyclique que l'abbé Pierre Aramburu, délégué diocésain à la vie consacrée, a proposé une méditation sur cette encyclique lors de la journée de la vie consacrée à Belloc le 1er février 2025. Voici l'intervention de l'abbé Pierre Aramburu, délégué diocésain à la vie consacrée.
Le thème de cette méditation, donc, est le suivant. Dans le sillage de la parole de Dieu et à l'écoute des saints, contemplez le cœur de Jésus. À partir de la deuxième partie de l'encyclique du pape François, surtout. Dans un texte très court, qui date de 1934, intitulé « Jeanne, relapse et sainte », Bernanos écrivait « Notre Église est l'Église des saints, car la sainteté est une aventure, elle est même la seule aventure, qui l'a une fois compris, est entrée au cœur de la foi catholique, a senti tressaillir dans sa chair mortelle une autre terreur que celle de la mort, une espérance surhumaine. » Et dans un livre, un roman paru en 1897, Léon Blois écrit, c'est la dernière phrase de ce roman, « La femme pauvre, qui s'appelle Clotilde, dont il dit qu'elle est une colonne de prière, et il écrit, « Il n'y a qu'une tristesse, c'est de ne pas être des saints. » C'est la dernière phrase de la femme pauvre. Et nous pourrions peut-être objecter à Léon Blois qu'il n'y a peut-être qu'une seule joie et une grande joie, c'est de marcher vers la sainteté. Selon l'expérience qu'en fit Thérèse de Lisieux, la poésie numéro 45, « Jésus, ma joie, c'est de t'aimer ». Mais aussi, le Saint-Père François, dans son exhortation post-synodale, nous la connaissons par cœur, cette première phrase, « La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. » Trois voix nous rejoignent peut-être ce matin dans cette méditation du cœur de Jésus. D'abord, c'est Sainte Mère Teresa de Calcutta. Voici comment elle se présente à Oslo en 1979, au moment où elle reçoit le prix Nobel de la paix. « Par le sang, je suis albanaise. Par ma nationalité, je suis indienne. Par ma foi, je suis une catholique. De par ma vocation, j'appartiens au monde entier. Pour ce qui est de mon cœur, j'appartiens tout entière au cœur de Jésus. » J'appartiens tout entière au cœur de Jésus. Sainte Faustine, morte en 1938, canonisée le 30 avril 2000, c'est dans le Petit Journal, au paragraphe 1796. Aujourd'hui, j'ai vu le Sacré-Cœur de Jésus dans une grande clarté dans le ciel. De sa blessure sortaient des rayons qui se répandaient sur le monde entier. Oh, qu'il est grand le feu du plus pur amour qui brûle dans ton Sacré-Cœur. Heureuse l'âme qui a compris l'amour du cœur de Jésus. Et puis nous pourrions reprendre aussi ces quelques lignes de Saint Jean de la Croix, la montée du Mont Carmel, livre 2, chapitre 22. À celui qui voudrait encore avoir des visions et des révélations, Dieu pourrait lui répondre, « Puisque je t'ai dit toutes choses dans ma parole qui est mon Fils, il ne me reste plus rien à te répondre ni à te révéler. Fixe les yeux sur lui seul, car j'ai tout renfermé en lui. J'ai tout dit et tout révélé. » Et dans le cantique spirituel, saint Jean de la Croix prend une image. C'est comme une mine abondante, remplie d'une infinité de filons, avec des richesses sans nombre. On a beau y puiser, on n'en voit jamais le sens. Ce qui est dans le Christ est inépuisable. Et précisément, ce qui est dans le cœur de Jésus est inépuisable. Le cœur transpercé du Christ sur la croix, d'où jaillirent l'eau et le sang, Jean 19, 34, est la manifestation suprême de l'amour que Dieu nous porte, la source du salut. Saint Augustin, dans un sermon sur saint Jean, écrira « Lorsque le côté du Christ fut ouvert, ce sont les portes du ciel qui nous ont été ouvertes. » Lorsque le côté du Christ fut ouvert, ce sont les portes du ciel qui nous ont été ouvertes. En Orient comme en Occident, les pères de l'Église voient dans l'eau et le sang sorti du côté du Christ la grâce du baptême, l'eau, et le sacrement de l'Eucharistie, le sang. Ils contemplent dans cet événement la naissance de l'Église. Ainsi se réalise la promesse de Jésus de répandre les fleuves d'eau vive de l'Esprit à partir de la source de son cœur. Jean chapitre 7. Par le côté transpercé de Jésus sont communiqués la miséricorde et l'amour du Père. Voici ce qu'écrit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1225. C'est dans sa Pâque que le Christ a ouvert à tous les hommes les sources du baptême. Le sang et l'eau qui ont coulé du côté transpercé de Jésus crucifié sont des signes du baptême et de l'Eucharistie, sacrement de la vie nouvelle. Dès lors, il est possible de naître de l'eau et de l'Esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Le regard porté vers le côté ouvert du Seigneur sur la croix constitue donc le fondement du culte au Sacré-Cœur. Se mettre à l'école du cœur de Jésus à la suite de saint Jean et de tant de saints et de saintes, c'est découvrir aussi la source de la joie. Et nous pouvons penser à ce beau verset du prophète Isaïe, chapitre 12, verset 3, « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » Isaïe 12, 3. Le 5 juin 2005, le pape Benoît XVI dira « Dans le langage biblique, le cœur indique le centre de la personne, le siège des sentiments et de ses intentions. Dans le cœur du Rédempteur, nous adorons l'amour de Dieu pour l'humanité. Rendre un culte au Sacré-Cœur du Christ signifie par conséquent adorer ce cœur qui, après nous avoir tant aimés jusqu'au bout, fut transpercé par la lance du haut de la croix et d'où jaillirent du sang et de l'eau, source intarissable de vie nouvelle. » Et le directoire sur la piété populaire et la liturgie, paru en 2001, dira « Le cœur de Jésus, c'est-à-dire la totalité de son être, ou le centre intime et essentiel de sa personne. Le cœur du Christ s'identifie au Christ lui-même, Verbe incarné et rédempteur. Dans l'Esprit Saint, le cœur de Jésus est orienté par nature, avec un amour infini, à la fois divin et humain, vers le Père et les hommes, ses frères. Dans l'Ancien Testament, Dieu se présente comme la source d'eau vive. Quand son peuple, qu'il avait libéré de la captivité d'Égypte et qui se détourne de lui, Dieu dira « Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive, pour se creuser des citernes lézardées qui ne tiennent pas l'eau. » Jérémie 2, 13. Cependant, Dieu n'abandonne pas son peuple, et malgré le péché d'Israël, il promet une alliance future qui n'aura rien de semblable avec les précédentes. Cette alliance se fera sous le signe de la justice et du droit, mais également sous le signe de la tendresse et de la miséricorde. Ce seront de véritables fiançailles scellées dans le cœur. Osée, chapitre 2. Ainsi, la loi du Seigneur sera dorénavant inscrite dans le cœur des hommes. Ézéchiel, chapitre 36. Il répandra sur eux une eau pure et ils seront purifiés. Il ôtera de leur corps le cœur de pierre et leur donnera un cœur de chair. Sitôt le prophète Ézéchiel l'avait vu en vision, jaillissant du côté droit du nouveau temple, pour devenir un fleuve immense qui assainit et qui donne la vie. Ézéchiel 47. En venant dans le monde, le Christ réalise toutes les promesses de la nouvelle alliance. La loi de Dieu est inscrite dans son cœur de chair, et l'Esprit du Seigneur demeure en lui. Or, ce cœur et cet esprit, il vient nous les donner. Il vient nous donner cette eau pure qui lave de toute souillure et qui prodigue la vie. En Samarie, près du puits de Jacob, il dira à la Samaritaine, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. » Et le dernier jour de la fête des tentes, peu avant sa Pâque, il s'écrira « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. De son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Et Saint Jean ajoute « Il parlait de l'Esprit que devait recevoir ceux qui avaient cru en lui. » Dans une homélie lors de la veillée pascale du 11 avril 2009, le pape Benoît XVI a synthétisé tout cet enseignement de la parole de Dieu. Écoutons-le. Près du puits de Jacob, le Christ annonce à la Samaritaine le puits nouveau, l'eau de la vraie vie. Saint Jean nous raconte qu'un soldat, avec une lance, perça le côté de Jésus et que de son côté ouvert, de son côté transpercé, sortit du sang et de l'eau. L'Église primitive y a vu un symbole du baptême et de l'Eucharistie qui dérive du cœur transpercé de Jésus. Dans la mort, Jésus est devenu lui-même la source. Au cours d'une vision, le prophète Ézéchiel avait vu le nouveau temple duquel jaillit une source qui devient un grand fleuve qui donne la vie. Dans une terre qui souffrait toujours de la soif et du manque d'eau, c'était là une grande vision d'espérance. Dans le Christ, cette vision s'est réalisée. Il est le vrai et vivant temple de Dieu. C'est lui, la source d'eau vive. De lui jaillit le grand fleuve qui, dans le baptême, fait fructifier le monde et le renouvelle. Jésus a cependant prophétisé une chose plus grande encore. Il dit : Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jaillit de son cœur. Dans le baptême, le Seigneur fait de nous non seulement des personnes de lumière, mais aussi des sources d'où jaillit l'eau vive. Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, nous entendons encore cette phrase « Que celui qui a soif vienne, que celui qui le veut reçoive l'eau de la vie gratuitement. » Le pape François écrit dans son encyclique sur le cœur de Jésus, au numéro 101, « Dans le cœur transpercé du Christ se concentre, inscrite dans la chair, toutes les expressions d'amour des Écritures. Il ne s'agit pas d'un amour simplement déclaré, mais son côté ouvert est source de vie pour celui qui est aimé. Il est cette fontaine qui étanche la soif de son peuple. Comme l'a enseigné saint Jean-Paul II, les éléments essentiels de cette dévotion appartiennent aussi de façon permanente à la spiritualité de l'Église au long de son histoire. Car dès le début, l'Église a porté son regard vers le cœur du Christ transpercé sur la croix. » C'est une citation de saint Jean-Paul II du 5 octobre 1986, une lettre au préposé général de la Compagnie de Jésus. Alors, les saints et les saintes de Dieu ont éminemment contemplé cette magnifique et riche réalité du cœur de Jésus, et dès les premiers siècles. Saint Ambroise, mort en 397. Écoutons un bref petit paragraphe. « Bois le Christ, car il est le rocher d'où l'eau a coulé. Bois le Christ, car il est la source de la vie. Bois le Christ, car il est le fleuve dont le jaillissement réjouit la cité de Dieu. » Bois le Christ, car il est la paix. Bois le Christ, car de son sein coulent des fleuves d'eau vive. Saint Augustin, mort en 430, dira que Jean le bien-aimé, lorsqu'il pencha la tête sur la poitrine de Jésus, s'approcha du lieu de la sagesse. Saint Bernard, docteur de l'Église. Ils lui ont percé les mains et les pieds, ils lui ont perforé le côté. À travers ces fissures, je peux boire le miel du rocher. Le fer a transpercé son âme et son cœur s'est fait proche. Il n'est plus incapable de comprendre mes faiblesses. Les blessures ouvertes dans son corps, nous révèle le secret de son cœur, elles nous font contempler le grand mystère de sa compassion. Un peu plus tard, au XIIe siècle, un moine cistercien, Guillaume de Saint-Thierry, nous invite à entrer dans le cœur de Jésus. Il écrira « Seigneur, où conduis-tu ceux que tu embrasses et serres dans tes bras, sinon à ton cœur ? Ton cœur, Jésus, est la douce manne de ta divinité. Heureux ceux qui, plongés dans ses profondeurs, ont été cachés par toi dans le secret de ton cœur. » Nous pouvons encore citer Saint Bonaventure, comme le fait le pape François, mort en 1274, docteur de l'Église. Il fut ministre général des Franciscains et on l'avait appelé le docteur séraphique. Il nous invite à contempler cette source d'eau vive qu'est le côté blessé du Seigneur, afin que du côté du Christ endormi sur la croix, l'Église soit formée. Afin que du côté du Christ endormi sur la croix, l'Église soit formée et que s'accomplisse l'Écriture qui dit « Ils verront celui qu'ils ont transpercé ». Cette blessure du côté de Jésus a été au centre de tout un courant de spiritualité qui remonte aussi au Moyen-Âge. Parmi elles, une sainte peu connue, que cite le pape François, sainte Lutgarde. Elle est morte en 1246 et c'est l'une des grandes figures mystiques de ce siècle. Vers 17 ans, la vie mystique l'envahit comme un ouragan, dit un témoin. Elle eut la vision du Christ, lui présentant sa plaie aux côtés, et sa vie en fut changée. Cette apparition est considérée comme la première apparition médiévale du Sacré-Cœur, 5 siècles avant Sainte Marguerite Marie. C'est intéressant à noter. Et puis nous avons bien sûr les grandes figures de ce que l'on a appelé la mystique rhénane, Sainte Moniale, Sainte Mechtilde, Moniale cistercienne, morte en 1298, mais aussi Sainte Gertrude de Helfta. Et elle nous confie qu'elle a eu, au cours d'un moment de prière, elle a posé sa tête sur le cœur du Christ et elle a entendu ses battements. Et Gertrude conclut : la douce éloquence de ses battements est réservée aux temps actuels. Enfin, qu'en les écoutant, le monde déjà vieilli et engourdi dans son amour envers Dieu puisse retrouver sa ferveur. Et le pape François commente ainsi la phrase de sainte Gertrude. Pourrions-nous y voir une affirmation pour notre époque, un appel à reconnaître combien ce monde est devenu vieux et a besoin de percevoir le message toujours nouveau de l'amour du Christ. Nous avons aussi quelqu'un qui est un chartreux, Ludolphe de Saxe, qui avait passé 26 ans chez les Dominicains et puis qui était entré chez les chartreux à Strasbourg, qui a écrit aussi sur le Sacré-Cœur. Et puis, Sainte Catherine de Sienne, bien sûr. Sainte Catherine de Sienne, docteur de l'Église, c'est aussi très important parce que le corps de Jésus crucifié et ressuscité est le centre de toute la synthèse théologique de Catherine. Et Catherine contemple le corps tout entier de Jésus. et elle le contemple dans une dynamique ascendante qui va des pieds jusqu'à la bouche, en passant par le cœur au milieu. Donc de la plante des pieds, ça nous fait penser au verset d'Isaïe, comme ils sont beaux de voir courir sur les montagnes les pieds du messager qui apporte la paix. Ce sont les pieds qui maintiennent aussi les signes des clous, la passion de Jésus, le côté ouvert d'où jaillissent l'eau et le sang, et puis la bouche d'où a jailli la parole. Cette bouche qui a prononcé la paix et qui a soufflé l'Esprit Saint après la résurrection. Pour Catherine, les pieds, le côté et la bouche sont comme une échelle, comme une voie, comme trois chapitres qu'elle contemple dans ce livre ouvert qu'est Jésus. Le même corps de Jésus crucifié et ressuscité et vérité. C'est le livre vivant, le livre de la vérité, où lui-même, non avec l'encre, mais avec son propre sang, non sur le papier, mais sur sa propre chair, a écrit l'amour infini de Dieu pour nous. Et voici une parole de Jésus qu'elle rapporte dans la lettre 74. Tu parviendras au lieu du côté fait par l'amour de mon cœur. C'est là que ton âme s'enivre. Dans une telle paix, vous goûterez le Dieu homme. Là se trouvera la chaleur de la divine charité. Vous connaîtrez l'infinie bonté de Dieu. Enfin, nous parviendrons à la paix de la bouche. Il la conduisit jusqu'à son côté, elle entra à l'intérieur du côté ouvert de Jésus, et enfin, il lui offrit son baiser en lui donnant la paix. Donc, le cœur, pour Catherine de Sienne, c'est le chapitre central, voyez, les pieds, le cœur, la bouche. Je crois que c'est quelque chose de très beau aussi que nous pouvons méditer. Et puis nous arrivons à d'autres fondateurs. Il y a bien sûr Saint François de Sales qui va fonder la Visitation avec cette Sainte Jeanne Françoise de Chantal, docteur de l'Église, mort en 1622. Déjà dans l'introduction à la vie dévote, il s'adresse à Philothée. Voyez-vous, ma Philothée, il est certain que le cœur de notre cher Jésus, voyez le vôtre, dès l'arbre de la croix, est l'aimé. Oui, cher Philothée, nous pouvons tous dire comme Jérémie, ô Seigneur, avant que je fusse, vous me regardiez et m'appeliez par mon nom. Et le 10 juin 1611, François de Sales écrit à Jeanne de Chantal, un an après la fondation de la Visitation. Il écrit ceci. La Visitation est par grâce maintenant assez considérable pour avoir ses armes, son blason. J'ai donc pensé, ma chère mère, si vous en êtes d'accord, qu'il nous faut prendre pour arme un unique cœur percé de deux flèches. Enfermé dans une couronne d'épines, ce pauvre cœur servant de support à une croix qui le surmontera et sera gravé des sacrés noms de Jésus et de Marie. Et à la fin de sa lettre, il écrit à Jeanne de Chantal, « Car vraiment, notre petite congrégation est un ouvrage du cœur de Jésus et de Marie. » Nous pouvons conclure de cela que la visitation a été fondée d'une façon plus ou moins explicite en vue du développement du cœur de Jésus. Saint Jean Eudes, il faut quand même l'évoquer aussi, mort en 1680 à Caen, c'est un grand missionnaire, ses contemporains le reconnaissent, Monsieur Ollier l'appellera la rareté de son siècle. Et Bossuet, l'ayant entendu, disait « C'est ainsi que nous devrions tous prêcher. » Pourtant, c'est Bossuet. Jusqu'aux environs de 1641, Saint Jean Eudes ne parle pas beaucoup du cœur. Il connaît cette réalité, mais il n'accorde pas une importance particulière. Et c'est après 1641, il se passe quelque chose en lui et il découvre au cœur une valeur primordiale. Il fut de fait le premier à penser rendre un culte liturgique au cœur de Jésus et de Marie. Il était entré à l'oratoire qui avait été fondé par le cardinal de Bérulle à Pau, et puis il va le quitter. Il était supérieur à Caen et il va fonder la congrégation de Jésus et de Marie en 1640, dite des Eudistes. Toujours est-il que le 8 février 1648, l'office du cœur de Marie débutait ainsi. Venez, adorons Jésus régnant dans le cœur de Marie. Il avait lu également dans Bérulle, au cœur de Jésus, vivant en Marie et par Marie, au cœur de Marie, vivant en Jésus et pour Jésus, ô liaison délicieuse de ces deux cœurs. Mais petit à petit, il va se rendre compte qu'il faut qu'il y ait une fête unique pour le cœur de Jésus, que c'était indispensable d'instituer une fête en l'honneur du cœur très divin de Jésus. Et il va prendre la décision de consacrer une fête distincte à chacun des cœurs de Jésus et de Marie, afin de leur rendre un culte propre. Et dans la circulaire du 29 juillet 1672, il institue la fête du cœur de Jésus. Cœur royal, nouvelle source d'une infinité de bénédictions, principe de tout ce qu'il y a de grand et de saint dans les autres solennités, source de notre salut, fournaise immense d'amour. Saint Jean Eudes passera le reste de sa vie à écrire le 12e livre du cœur admirable uniquement consacré au cœur de Jésus. Nous arrivons maintenant à Sainte Marguerite Marie et nous allons nous y arrêter un peu parce que, comme vous le savez, les reliques de Sainte Marguerite Marie vont être accueillies par la chapelle d'adoration à Pau et qu'elles vont parcourir le diocèse et que cela est lié à l'adoration du Saint-Sacrement précisément. 1647-1690, nous sommes au XVIIe siècle. Nous pouvons dire que une même et unique parole de feu a habité et aspiré toute la vie de la sainte. J'ai soif. Jean 19, 28. Ce qui est intéressant, c'est que, avant de recevoir ses apparitions, Jésus l'a préparée. Un peu comme les trois enfants de Fatima avaient eu les trois anges qui étaient venus les visiter, et Marguerite Marie aussi va être préparée, c'est très beau aussi, par un contact mystique, progressif avec le Christ. Celui-ci lui était apparu dès son enfance, et elle avait eu une relation très étroite avec lui. Mais comme c'est souvent le cas dans l'histoire de la spiritualité, elle avait reçu comme ami particulier des saints qui lui servirent en quelque sorte d'introducteur au mystère du Christ. Et le plus important, c'est saint François d'Assise. Elle écrit « Un jour de saint François, à mon oraison, notre Seigneur me fit voir ce grand saint, revêtu d'une lumière et splendeur incompréhensible et élevé à un très haut et éminent degré de gloire, à cause de la conformité qu'il a eue de la vie souffrante de notre divin Sauveur, la vie de nos âmes et l'amour de nos cœurs. » En second lieu, même si Marguerite Marie n'a pas eu d'apparition de Saint Jean, elle aura la grâce de reposer sur la poitrine de Jésus. Il me fit reposer fort longtemps sur sa divine poitrine, écrit-elle. Et du reste, sa ressemblance avec Saint Jean était telle que les sœurs du noviciat étaient charmées. Elles se disaient les unes aux autres, « Notre maîtresse des novices est comme notre Saint Jean, qui ne sait que parler la langue de l'amour. » Et au procès de béatification, sœur Françoise Rosalie disait, « Elle en parlait si souvent de l'amour de Dieu qu'on la comparait à Saint Jean l'évangéliste sur ce point. » Et nous avons là donc une sorte de patronage spirituel qui va dans une ligne très précise. Il s'agit de saints dont toute la vie a été commandée par une union spéciale avec Jésus et par la prédominance de l'amour. Nous pouvons noter aussi qu'avant sa profession religieuse du 6 novembre 1672, Marguerite Marie fait une retraite préparatoire, comme on le fait toujours, mais Jésus l'y invite à faire de la plaie de son côté sa demeure. Et cette grâce fondatrice contient déjà tous les grands traits de la vocation de la sainte. Je cite « Voici la plaie de mon côté, pour y faire ta demeure actuelle et perpétuelle. » Celle où tu pourras conserver ta robe d'innocence dont j'ai revêtu ton âme, afin que tu vives désormais de la vie d'un homme-Dieu. Vivre comme ne vivant plus, afin que je vive parfaitement en toi. L'essentiel est ici l'identification à la vie de l'homme-Dieu par la voie de l'abandon et du pur amour. C'est sur cet ensemble que va se greffer la première grande apparition qui pourrait bien être du 27 décembre 1673. Nous en rappelons ici les principaux éléments qui sont tous importants. D'abord, nous l'avons vu, elle avait reposé très longtemps sur la poitrine du Christ. Comment le Sacré-Cœur de Jésus lui a été représenté? Écoutons. « Ce divin cœur me fut présenté comme dans un trône de flamme, plus rayonnant qu'un soleil et transparent comme un cristal, avec cette plaie adorable. Et il était environné d'une couronne d'épines qui signifiait les piqûres que nos péchés lui faisaient. » Et une croix au-dessus qui signifiait que dès les premiers instants de son incarnation, c'est-à-dire dès que ce sacré cœur fut formé, la croix y fut plantée. Et il fut rempli, dès ses premiers instants, de toutes les amertumes que devaient lui causer les humiliations, pauvreté, douleur et mépris que sa sacrée humanité devait souffrir pendant tout le cours de sa vie en sa sainte passion. Le Christ ne se contente pas de cette image, mais il parle encore à Marguerite Marie. Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen et qu'il se manifeste à eux pour les enrichir des précieux trésors que je te découvre et qui contiennent les grâces sanctifiantes et salutaires pour les relever de l'abîme de perdition. Et puis, Jésus va prendre le cœur de Marguerite Marie, il va le mettre dans le sien et il le lui rend tout embrasé. Alors, dans ce texte, on s'aperçoit d'abord qu'il y a une notion de secret qui est dévoilée. Le Christ a secrètement fait choix de Marguerite Marie et l'a formée pour lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il a un secret à lui confier. Et ce secret, c'est une merveille. C'est celui d'un cœur blessé et souffrant. En d'autres termes, le Christ confie à Marguerite Marie qu'il a souffert sur la terre très profondément et depuis le début. Pourquoi souffre-t-il ? Parce que les hommes sont en train de se perdre finalement, parce qu'ils rejettent l'amour. Et le Christ ne souffrirait pas pour eux s'il ne les aimait pas. Il a un ardent désir de les sauver. En réalité, il est passionné, dévoré, si l'on ose dire, par cette passion qui est l'amour de ses frères les hommes. Et la souffrance du Christ, symbolisée par ses épines et ses blessures, c'est l'indifférence humaine. Et donc, ne pouvant plus contenir dans son cœur cet amour infini, il décide d'intervenir pour lancer un appel à l'humanité. Et Marguerite Marie est choisie pour faire retentir cet appel. La seconde grande apparition, le cœur de Jésus, toujours, je lis, « Et une fois encore entre les autres, le Saint-Sacrement était exposé. Après m'être senti tout retiré au-dedans de moi-même par un recueillement extraordinaire, de mes sens, Jésus-Christ, mon doux maître, se présenta à moi, tout éclatant de gloire, avec ses cinq plaies brillantes comme cinq soleils. Et de cette sacrée humanité sortaient des flammes de toutes parts, mais surtout de son adorable poitrine, qui ressemblait à une fournaise, s'ouvrit et il me découvrit son tout aimable et adorable cœur qui était la source vive de ses flammes. C'est alors qu'il me découvrit combien il aimait les hommes dont il ne recevait que des ingratitudes et des méconnaissances. » Les hommes, autrement dit, se trouvent à côté d'un trésor qu'ils refusent absolument de voir. Et Jésus dira d'une manière pathétique, dans une autre apparition, « J'ai soif, mais une soif si ardente d'être aimé des hommes au Saint-Sacrement que cette soif me consomme. Je ne trouve personne qui s'efforce selon mon désir pour me désaltérer en rendant quelque retour à mon amour. » La troisième grande apparition entre le 13 juin et le 20 juin 1675, je lis, « Étant une fois encore devant le Saint-Sacrement, un jour de son octave, je reçus de mon Dieu des grâces excessives de mon amour et je me sentis touché du désir de lui rendre amour pour amour. Et il me dit, tu ne peux m'en rendre un plus grand qu'en faisant ce que je t'ai tant de fois demandé. Alors, en me découvrant son divin cœur, voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes. Par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par la froideur et le mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Mais ce qui m'est encore plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui anusent ainsi. Et donc, Jésus précise qu'il a fait choix d'un certain nombre de personnes pour être plus proches de lui. Ce sont les âmes consacrées. Or, beaucoup sont infidèles à leur appel et blessent le Christ d'une manière particulière. Le Christ demande que certaines personnes vivent plus près de lui, comme ses amis, afin de l'aider, de le consoler, et par là, de réparer ce que les autres n'ont pas donné à Jésus. Cette réparation, ce n'est pas quelque chose de mathématique, mais nous sommes dans la dialectique de l'amour. La réparation, c'est tout simplement de l'amour qui est donné à Jésus. Et une autre fois, le Christ lui déclare « Ma fille, je viens dans le cœur que je t'ai donné, afin que par son ardeur, tu répares les injures que j'ai reçues de ces cœurs tièdes et lâches, qui me déshonorent dans le Saint-Sacrement. » Le message de Parhelmonial est donc centré sur le Christ Jésus, mais la théologie de Marguerite Marie n'est pas déséquilibrée pour autant. La Trinité joue un rôle très réel dans sa vie mystique. Et nous pouvons aussi noter que Marguerite Marie a eu une authentique vie, intimité mariale. Une autre fois, Jésus m'enseigna trois dispositions qu'il me fallait apporter en trois de mes exercices les plus importants. Le premier est la Sainte Messe, que je devais entendre dans la même disposition de la Sainte Vierge au pied de la croix. Pour la Sainte Communion, il me faut demander les dispositions qu'elle avait au moment de l'incarnation, tâchant d'y entrer le plus qu'il me sera possible par son intercession et disant avec elle « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. » Et pour l'oraison, il me demanda d'offrir les dispositions que la Sainte Vierge avait lorsque elle fut présentée au temple. Nous pouvons peut-être à partir de cela faire une petite conclusion pour dire au fond ce qui est essentiel dans ce message du Sacré-Cœur. Peut-être que quelque chose d'essentiel, c'est qu'il y a là une anthropologie du cœur. L'une des clés de lecture de la crise du monde contemporain tient à l'absence d'une claire vision de l'homme. Bien des choix éthiques butent sur une carence notoire de repères anthropologiques. Et la Bible, ce n'est pas sans raison, nous propose le signe du cœur, plus de 1000 fois dans la Bible, qui signifie la racine profonde de l'être, l'homme se définit à partir de son cœur. Et nous comprenons sans doute que face aux visions de l'homme divisé, éclaté contre lui-même et contre Dieu, seule l'anthropologie du cœur peut répondre aux questionnements de notre époque. Sans charité, sans respect mutuel, sans pardon, nous le voyons bien, l'humanité court à sa perte. La dévotion au Sacré-Cœur répond plus que jamais aux attentes de notre temps. Dans une homélie de 1990, le cardinal de Courtrai avait souligné la nécessité de plonger dans cette spiritualité. Il soulignait, je cite, « la nécessité pour tout baptisé, comme pour les théologiens, de retrouver le point central de la foi qu'est le cœur du Christ, pour ne pratiquer rien d'autre que la théologie des saints, c'est-à-dire une théologie à genoux. » Le culte du Sacré-Cœur va se répandre à Paray-le-Monial, puisque Marguerite Marie sera béatifiée par Pie IX en 1864, canonisée par Benoît XV le 13 mai 1920, et puis le magistère de l'Église va publier des encycliques importantes, Léon XIII en 1899, en vue de l'année sainte, Annum Sacrum, et le sous-titre c'est « Sur la consécration du genre humain au cœur de Jésus ». Il y aura aussi l'encyclique de Pie XI, un peu plus tard, 1928, « Miserentissimus Redemptor », « Notre très miséricordieux Rédempteur ». Et le sous-titre c'est « Notre devoir commun de réparation envers le Sacré-Cœur de Jésus ». Et puis en 1956, Pie XII, « Aurietis aqua sin gaudio », il reprend le verset d'Isaïe, « Vous puiserez dans la joie les eaux aux sources du salut ». Et peut-être que l'actualité aussi, et nous terminerons par là, du message du Sacré-Cœur, c'est de nous inviter à entrer de plus en plus dans la mission de faire connaître Jésus. Et je vous renvoie au numéro 209 et 210 de l'encyclique. Je cite le pape François. « La mission comprise dans la perspective du rayonnement de l'amour du cœur du Christ a besoin de missionnaires amoureux, captivés par le Christ, et qui transmettent inlassablement cet amour qui a changé leur vie. » Et il ajoute, « Parler du Christ par le témoignage ou la parole, de telle manière que les autres n'aient pas à faire un grand effort pour l'aimer, voilà le plus grand désir d'un missionnaire de l'âme. Il n'y a pas de prosélytisme dans cette dynamique de l'amour. Les paroles de l'amoureux ne dérangent pas, elles ne s'imposent pas, elles ne forcent pas. Elles poussent seulement les autres à se demander comment un tel amour est possible. Dans le plus grand secret, dans le plus grand respect de la liberté et de la dignité de l'autre, l'amoureux attend simplement qu'on lui permette de raconter cette amitié qui remplit sa vie. » Et cette amitié qui remplit sa vie, moi je l'ai vécue et d'autres aussi, c'était la journée des fiancés, journée diocésaine des fiancés. Il y a eu de très beaux témoignages qui sont vraiment ce que dit le pape François. Voilà. Des personnes qui ont témoigné de cette amitié qui remplissait leur vie, mais d'une manière très humble, toute simple. Le matin, il y a eu trois couples témoins, mais c'était très beau, très divers. Pendant le repas, moi j'étais à table avec. Il y avait des troupes de 12, 13. Bon, ça a continué à échanger. Et puis, ils remplissaient un petit papier pour poser des questions. Et l'après-midi, il y avait une table ronde. Et là encore, les questions portées et les réponses apportées étaient magnifiques et très belles. Et moi j'étais tout à fait en haut de l'amphithéâtre, au dernier rang. Et je regardais de temps en temps cette assemblée, il y avait 70 couples, mais il y avait une attention qui était magnifique. Personne ne chahutait, tout le monde écoutait. Et lorsque un couple a expliqué, par exemple, les méthodes naturelles de contraception, dans tout cela, voyez, j'ai saisi combien dans le plus grand respect de la liberté et de la dignité de l'autre, l'amoureux attend simplement qu'on lui permette de raconter cette amitié qui remplit sa vie. Voilà. Donc, lisons cette belle encyclique. Nous pourrons en faire notre méditation. Je crois que c'est très beau. Et puis, que Sainte Marguerite Marie vienne nous visiter. Ça sera aussi l'occasion pour nous d'aller vraiment à la source du cœur de Jésus, avec ses trois apparitions. Voilà, nous les avons un petit peu explicitées, mais je crois que ça en valait vraiment la peine. Merci.
Dilexit nos, il nous a aimés. Vous venez d'entendre la méditation proposée par l'abbé Pierre Aramburu, délégué diocésain à la vie consacrée, le 1er février 2025 à Belloc, lors de la journée de la vie consacrée. Il méditait, il commentait donc cette lettre encyclique du pape François sur l'amour humain et divin du cœur de Jésus-Christ, lettre encyclique publiée le 24 octobre 2024, Dilexit nos, il nous a aimés.